Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International sur RFI. Avec aujourd'hui encore les éliminatoires en Afrique et déjà trois qualifiés en vue de cette CAN 2024. En plus de la Côte d'Ivoire, pays hôte, seront à cette heure au rendez-vous le Maroc et l'Algérie. Le Cameroun attendra, n'est-ce pas Rémi Ngono ? Bonjour Rémi.
Oui, attendra presque au bord du cimetière.
Vous avez l'air très troublé, pourtant vous avez un lion ou un félin qui rugit sur votre pull, mais j'ai l'impression que ça leur a pas porté chance aux Camerounais après leur défaite donc face à la Namibie. Le report aussi du match retour Bénin-Rwanda, objet de plusieurs communiqués de la CAF avant de transférer hors des dates FIFA ce match. Doit-on parler d'amateurisme ? Les Guépards sont-ils défavorisés ? Deux matchs et deux victoires pour l'équipe de France, comme à Kazan. Benjamin Pavard a inscrit un beau but, celui de la victoire, et signé sa rédemption, alors que l'impassible Mike Maignan s'est encore illustré hier par une belle envolée. Quel bilan tiré de ces deux victoires si différentes des hommes de Didier Deschamps ? Le Kosovo rêve d'euro. L'équipe de ce petit pays de l'ancienne Yougoslavie est entraînée par Alain Giresse et il nous parlera de son travail avec des joueurs dont certains sont dans les championnats européens. Certains grands championnats d'ailleurs européens. Dans ce studio avec nous, bonjour Marc Libra.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes bien entouré aujourd'hui.
Oui,
hein.
Vous
allez devenir un crack en foot africain, je suis sûr.
J'espère bien. J'ai joué avec beaucoup de joueurs africains en plus.
Avec Yoro Mangara. Bonjour Yoro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors, il n'est pas le seul Sénégalais dans ce studio aujourd'hui. Vous êtes venu en renfort et notamment avec Cheikh Omar Haïdara. Bonjour Cheikh Omar.
Bonjour Annie. Bonjour.
Merci de revenir et de vous retrouver face à Rémi Ngono.
Oui,
c'est jamais simple,
Rémi,
vous le savez.
Que j'ai le plaisir de découvrir aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le bonjour.
C'est pas le bonjour. Là, il est éteint. Là.
Ouais.
Normalement, il grille, il me sort un truc, un proverbe. Et là, il est pas bien.
Allez,
Rémi, c'est pas grave.
Une proie facile aujourd'hui. Non, mais Rémi a toujours plus d'un proverbe dans son sac. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Et c'en est terminé. Sérieuse, appliquée. La Côte d'Ivoire s'impose logiquement 3-1 face aux Comores.
Pierre Koundé. Oh, le but. Quel but. Avec la tête superbe. L'égalisation du Cameroun, la fête, les supporters qui se lèvent. Quelle tête pour permettre au Cameroun d'égaliser, c'est superbe.
Et c'est terminé, l'Algérie s'impose 1-0, remporte ses deux confrontations face au Niger et se qualifie.
Très peu d'élan, oh c'est au fond des filets. Et le coup franc, c'est au fond des filets, ça fait 2-0 pour la Namibie. Regardez l'explosion de joie.
La quatrième journée donc des éliminatoires africaines est déjà bien entamée et à 7h, trois nations ont donc leur participation assurée à la prochaine CAN. La Côte d'Ivoire donc, on le disait, les éléphants en tant que pays organisateur. Le Maroc, même sans jouer puisqu'il dispute deux matchs amicaux, mais le Maroc est aussi déjà qualifié. Et puis l'Algérie, vainqueur hier soir du Niger sur le score de 1-0. Les Lions indomptables seront-ils de la fête en Côte d'Ivoire, eux, les mondialistes du Qatar, eux qui ont battu le Brésil. Ils nous inquiètent, Rémi, on ne vous le cache pas, mais j'ai l'impression qu'ils vous inquiètent aussi. Ils viennent de s'incliner donc sur le score de 2-1. C'était face à la Namibie. Alors, on a entendu qu'au match aller, même sur un score nul de 1-1, le public s'était un peu levé dans le stade pour les encourager. Là, on ne risquait pas. Ce stade était vide. Il faut dire que la Namibie ne jouait pas à domicile. Hein. Elle jouait en Afrique du Sud, mais il y avait vraiment que du monde sur les bancs des équipes. Est-ce que vous les trouvez inquiétants ? Vincent Aboubakar quand même est rentré en cours de jeu le capitaine et il a marqué comme d'habitude hein, on dirait son but mais est-ce que vous trouvez cette équipe inquiétante?
Il était titulaire.
Ah, pardon, oui, excusez-moi. C'était le match d'avant où il n'avait pas pu jouer parce qu'il avait eu un carton rouge contre le Brésil, on s'en souvient.
Ce n'est pas inquiétant, c'est décevant, c'est humiliant. Parce que cette fois-ci, quand on parle quand même de Lions Indomptables du Cameroun et on regarde le bilan, c'est vrai qu'on peut rapidement commencer à danser qu'on a battu le Brésil. Mais en fait, nous avons qui ? Nous avons un sélectionneur qui est en fait un danseur. C'est un mannequin. Parce que ce n'est pas admissible lorsqu'on voit ce qui se passe avec l'équipe du Cameroun. Est-ce que vous avez pu constater que Rigobert Son a pour formation d'abord défenseur? Mais lorsque vous regardez les gens qui sont au terrain et les buts que l'équipe du Cameroun prend, vous vous rendez compte qu'en 12 matchs, Rigobert Son n'a réussi que 2 clean sheets. Et aujourd'hui, le Cameroun pouvait prendre 5. Vous avez un papa retraité qu'on appelle Nicolas Nkoulou. Il fait un marquage à 5 mètres de l'attaquant. Vous avez quelqu'un d'autre qui est gardien de but. En fait, moi j'ai toujours dit c'est un bon gardien d'immeuble. Et à côté de ça, vous avez donc des gens qui ne travaillent pas au milieu du terrain. On est parti nous prendre quelqu'un qu'on appelle Bemo qui joue en Angleterre. Mais le gars avance plus gros que le mien. Mais comment vous pouvez prendre des gens qui physiquement, techniquement, tactiquement ne répondent à rien? Vous avez un gamaleux. Lui, il croit que le football, c'est regarder par terre et ne jamais soulever le regard. À partir de là, lorsque vous avez un sélectionneur qu'on appelle Rigobert Son et qui ne peut pas au moins utiliser des remplaçants qu'il a pour essayer de mettre une certaine dynamique, il vous sort un truc comme ça là, 4-4-2, qui se transforme en 4-2-4, et lui-même, il ne sait plus là où ça se trouve. J'ai dit, aujourd'hui, les Lions ne sont malheureusement que des chatons, et comme le dit un proverbe africain, quand on va à la chasse avec des chats, on n'attrape que la souris.
Yoro, à vous de rebondir hein, sur ce qu'a dit Rémi, mais c'est vrai que, par exemple, un des exemples de ce que dit Rémi, c'est quand même ce tir sur coup franc, le but sur coup franc de la Namibie que prend tout à l'heure le Cameroun.
Mais déjà, je crois qu'ils ont fait une grosse erreur lors de la dernière Coupe du Monde en se séparant de peut-être de l'un des meilleurs gardiens du monde, Onana. Ils l'ont mis à la cave et lui-même après a décidé de prendre sa retraite internationale. Je crois que c'était...
Ça peut ne pas être définitif, mais en tout cas, oui, pour l'instant, ce n'est pas lui qui est dans les buts. Mais là, est-ce que c'est vraiment la faute du gardien? Parce que le mur ne l'aide pas quand même.
Oui, mais il faut déjà avoir un bon gardien pour avoir une bonne défense. Après, les joueurs et les joueurs sélectionnés depuis que Rigobert Son est là... Je crois que lui-même ne choisit pas les footballeurs qui composent cette équipe camerounaise. Parce que avant la Coupe du Monde, on a vu Samuel Eto'o dans une conférence de presse dire « j'ai choisi mes joueurs ». Donc c'est lui qui choisit. Quand on a un président de la Fédé qui est présent, qui prend toutes les décisions, qui fait de l'ombre à l'entraîneur national et qui vient dans les vestiaires, c'est lui qui parle. À un moment donné, on veut toujours accuser Rigobert Song, mais ce n'est pas lui le problème parce que ce n'est pas lui qui fait les équipes, malheureusement.
Il reste un match au Cameroun, hein, c'est bien ça, Rémi, contre le Burundi, à domicile. Peut-être qu'on peut se dire, Cheikh Omar, c'est qu'il a gagné 3 matchs sur 12, peut-être,
Rigobert Song.
Mais quand même, il gagne les matchs essentiels, peut-être, on peut dire.
Oui, mais en fait,
on se souvient tous de la qualification en Algérie.
Je pense que le problème est profond. Hein. Bon, Yoro l'a un peu frôlé parce qu'en réalité, c'est la gestion de l'équipe qu'il faudra revoir. Donc, une gestion où il y a la mainmise du président de la fédération qui pratiquement fait tous les choix. Après, vous vous séparez d'un garde et de Onana. Moi, je vous dis que vous avez affaibli la défense. Donc, aujourd'hui, un garde, bon, comme il l'a dit, en défense centrale, Nkoulou, il ne sert absolument pas à grand-chose. Donc, il fallait tout simplement conserver un garde, surtout dans ces genres de configuration. Il a toujours été satisfaisant, surtout en tout cas pour les matchs continentaux, parce qu'il y a une différence entre aller jouer une Coupe du Monde et jouer en Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la fédération, en même temps l'entraîneur, mais il faut tout mettre dans un même bocal, parce qu'en réalité, il y a une relation très proche entre Rigobert Song et Samuel Eto'o.
Oui,
mais quand mais même, ça, c'est catastrophique ce que le Cameroun est en train de traverser. Parce que la Namibie, quand même, match nul à l'aller et une défaite au retour, quand même, il y a véritablement des questions.
Ah oui, bah, d'ailleurs, la Namibie, elle peut rêver de la CAN. Hein.
Sur l'omniprésence de Samuel Eto'o que j'ai souvent critiqué. Mais là, vous avez vous-même des responsabilités lorsque, dans un match comme celui-ci, tout le monde connaît que, quand on l'avait vu contre la Serbie, c'était une catastrophe. Bon, on a quand même vu les matchs du Cameroun. C'est-à-dire qu'on avait de la peine à s'en sortir avec des gens qui sont quand même connus pour le reggae, la Jamaïque. On n'a pas réussi à s'en sortir. Pour là. On s'est retrouvé en difficulté face à l'Ouzbékistan. Et vous avez vu le niveau de quelqu'un qu'on appelle Onla. Le Cameroun est mené. Rigobert Song prend la décision de mettre Onla qui ne connaît contrôler qu'avec le tibia. Donc le ballon doit toujours rebondir là. Donc à partir de cet instant, on ne va pas dire que c'est le président qui le fait. C'est lui-même. Il a quand même été dans les U23. Il n'a pas réussi. Il a été au Tchad. Il n'a pas réussi. Peut-être qu'il faudrait véritablement qu'on s'interroge sur le vrai niveau des Rigobert Song aujourd'hui à pouvoir gérer un effectif. Mais sinon, lorsque vous essayez de regarder quand même par rapport à certains joueurs qu'il a...
En fait, c'est le duo en réalité. Parce qu'en fait, Rigobert, on ne le comprend pas dans ses schémas tactiques où il nous amène un 4-4-2. Moi, c'est le 4-4-2 qui m'étonne en fait. Alors que le Cameroun a toujours évolué avec un 4-3-3, les centres venaient des côtés et que Vincent Aboubakar avait donc tendance à concrétiser les occasions. Mais vous mettez deux attaquants, le jeu ne se développe pas à partir du milieu de terrain, il n'y a pas de jeu de transition, il n'y a absolument rien du tout, on ne décale pas sur les côtés. Donc c'est problématique aussi sur le plan coaching. Mais dans tous les cas, c'est eux deux, c'est Rigobert et Samuel qu'il faudra peut-être pointer du doigt.
Pourtant, Marc, ce qui nous surprend, c'est qu'il y a aussi des noms importants dans cette équipe des Lions Indomptables, parce qu'on pense à Onana, qui n'est plus là en ce moment, il y a Zambo Anguissa, il y a quand même des joueurs qui sont...
Lui aussi faisait le défilé de mode. Mais, Zambo Anguissa.
Bah oui, mais...
Le paradoxe, on a parlé de Mbeumo qui réussit en Angleterre, de Zambo Anguissa qui fait l'appui le beau temps aujourd'hui à Naples, qui est très fort, et on me dit quand ils arrivent en sélection, il y a un problème. Samuel Eto'o a mis des gens en place. Si aujourd'hui, le pouvoir, parce que Samuel Eto'o prend de la place.
C'est ça.
Rappelez-vous Samuel Eto'o quand il était joueur de foot, Samuel Eto'o en conférence de presse, Samuel Eto'o sur un terrain. C'est une grande star. Mais quand vous pouvez voir aujourd'hui l'influence qu'il peut avoir, il faut essayer qu'il rentre dans les rangs, mais c'est difficile, c'est un compétiteur hors norme. Samuel Eto'o, il connaît le football par cœur, il l'a envoyé chez Guardiola, il a envoyé tous les plus grands joueurs du monde parce qu'il était très fort. On va se rappeler, ces prises de bec, moi tu me fais ça, je l'ai croisé une ou deux fois, c'est un joueur exceptionnel. Donc aujourd'hui, malheureusement, dans son rôle, aujourd'hui, il doit se mettre au niveau que ce n'est pas des Samuel Eto'o qu'il en fasse. Parce que si lui considère que c'est des Samuel Eto'o, il n'y en a eu qu'un de Samuel Eto'o. C'est difficile de dire ça parce que c'était une grande star et qu'aujourd'hui, son ami qui est entraîneur, il dit c'est mon ami, bien sûr qu'il peut influencer, tu peux mettre lui parce que lui, je pense que lui peut se rapprocher d'eux. Oui. Mais c'est difficile parce qu'il faut rester à sa place. Tant qu'il ne pourra pas rester à sa place et faire son rôle, c'est difficile parce que les joueurs, certains joueurs sont talentueux, d'autres, c'est vrai, tu es un peu dur, la retraite est ici et là, mais certains sont très intéressants avec leur club et on ne les retrouve pas en sélection. Donc il faut retrouver cette sérénité parce qu'autrement, comme tu dis, c'est honteux. Et ça, c'est vraiment dommage parce que pour moi, le potentiel est là.
Bon, qui pour parler de la Namibie, parce que c'est quand même une inconnue un peu la Namibie, Yoro.
Ça fait partie de ces équipes de l'Afrique australe qui travaillent bien déjà au niveau des clubs et qui essaient quand même de... Parce que dans ces pays, le football n'était pas le sport roi il y a encore quelques années. Ils commencent à... C'est le rugby, exactement, et le cricket. Ils commencent à s'intéresser à ce sport et à travailler à la base parce qu'il y a beaucoup de joueurs namibiens qui évoluent dans le championnat sud-africain qui est l'un des meilleurs championnats en Afrique.
Et c'est là qu'ils jouaient d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, en tout cas, il y a quand même, Rémi, peut-être une consolation, c'est que dans ce groupe, il n'y a que trois équipes, puisque le Kenya a été écarté. Donc, il y a le Cameroun, la Namibie et le Burundi. Du coup, la Namibie prend la tête du groupe, mais c'est vrai qu'il reste encore un match et que le Cameroun, à domicile, pourra terminer le travail, on va dire.
Terminer le travail, mais ce que je dis, c'est que en réalité, il n'y a pas de match référence, peut-être à part ce qu'on a vu contre le Brésil, et ça a surpris tout le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on va pour une Coupe d'Afrique des Nations, il faut aller ayant de la confiance. Et comme je le dis, je regarde le potentiel offensif du Cameroun et je me rends compte que mais nous venons de traverser là avec quelqu'un, comme vous dites, qui réussit à Brentford. Hein. Mais attendez, mais quand non, même, 8 matchs, vous êtes bemo et vous n'avez ni passe décisive, ni but. Vous posez des questions.
Rémi, on l'avait un peu anticipé quand on avait dit que Karl Toko et Kambi n'étaient pas là, que Choupo-Moting n'était pas là. Peut-être que pour le troisième match, ça apportera quelque chose, en tout cas une qualification.
Il le faut en tout cas.
Après, il faudra travailler d'ici le mois de janvier, c'est ça ?
Il faut travailler, mais le Cameroun a souvent réussi beaucoup plus avec une défense compacte qu'avec une attaque de faux follets. Mais c'est ça qui me surprend et c'est ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui. Comme je dis, le Cameroun prend beaucoup de buts. On a vu contre la Serbie comment est-ce que chaque occasion pouvait aboutir à un but. Et d'ailleurs, on en a pris 3. Si l'Ouzbékistan nous a quand même aussi mis 2. Et si on constate que là, en 2 matchs, contre la Namibie, 113e au classement FIFA, on se retrouve à prendre 3 buts.
Alors avec là, avec 2 tirs cadrés côté camerounais.
Côté namibien.
La Namibie qui a déjà participé à 3 CAN, hein, en 1998, en 2008 et en 2019, donc qui pourrait décrocher sa 4e qualification. Les mots de tête des sélectionneurs, eh bien, il n'y a pas que Rigobert Song qui en aura. Il y a Guernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, qui joue contre le Rwanda. Alors au match aller, il n'y a eu qu'un match nul, 1-1, pour les Guépards, hein, qui étreignaient leur nouveau titre, surnom, on va dire, c'est pas un titre, leur nouveau surnom. À Cotonou, le match retour était prévu sur décision de la Confédération africaine à Cotonou, car le stade choisi par les autorités rwandaises, enfin la Fédération rwandaise à Houillé, n'était pas aux normes. En fait, c'est l'hôtel qui n'y était pas. Mais sitôt le match terminé, les Amavubi, les Guêpes du Rwanda sont rentrés à Kigali et la CAF a accepté le recours de la Fédération rwandaise. Le match retour se joue donc finalement au Rwanda. Et il a fallu 3 communiqués à la CAF pour finalement préciser la date et le lieu. La grosse surprise, Yoro, c'est que ce n'est pas dans la période FIFA.
On est habitué à ces farceurs. Moi, j'ai toujours appelé...
C'est de l'amateurisme.
Moi, j'ai toujours appelé la CAF, la Confédération africaine des farceurs. Ça, c'est une farce. Quand moi, je suis un club professionnel, tu veux faire jouer un joueur qui est sous contrat dans mon club dans une date qui n'est pas une date FIFA, mais je refuse carrément.
Parce c'est ce qui se passe.
Mais s'il se blesse, qui va gérer les assurances et autres? Pourquoi les clubs refusent de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques, et qui sont quand même quelque chose...
d'honorifique.
D'honorifique. Mais un match éliminatoire qui n'est pas sur une fenêtre internationale, c'est du jamais vu. C'est de l'amateurisme à tous les niveaux. La Confédération africaine de football nous a habitués à ces cafouillages et à cette cacophonie. Malheureusement, c'est eux ou c'est elles qui dirigent le football africain.
Résultat, Guernot Rohr, qui est à Kigali, eh bien, il s'est désolé tout à l'heure. Il dit qu'il a eu beaucoup de soucis à gérer et il a dit surtout du jamais vu dans toute ma carrière africaine et il travaille en Afrique depuis 2010. Est-ce qu'on a l'impression aussi que la Fédération béninoise, elle n'a peut-être pas... assez réclamé, Cheikh Omar?
Oui, bon, je pense que c'est très compliqué parce que ça, c'est des questions qu'il faudra aborder de part et d'autre. En fait, si vous devez libérer un joueur hors date FIFA, c'est très compliqué.
Parce et ben résultat, il est obligé de se passer alors de Jordan Adeoti qui joue au stade Lavallois, de Cécile Almeida qui n'avait pas pu jouer parce qu'il avait eu des cartons rouges, mais là, il ne peut pas faire le match retour contre le Rwanda.
C'est compliqué, hein, parce qu'en fait, le club aussi a le privilège de dire non.
Bon, et Steve Mounier, le joueur de Brest, est autorisé à rester, mais Brest a demandé ce qu'il ne joue pas plus de 30 minutes.
C'est le risque de blessure en réalité. Ça, en fait, les clubs aussi, ils défendent un peu leurs intérêts.
Les clubs, bien sûr qu'ils défendent leurs intérêts, mais comment il fait, Guernot Rohr?
Bah, c'est ça la grande question en fait.
S'il refuse de faire jouer 30 minutes, mais Brest vous dira, bah, écoutez, si c'est le cas, rendez-nous notre jour parce que cette année il y aura 4
équipes. Non, c'est pas ça, mais comment il fait pour décrocher une qualification? C'est ça
oui,
que je dis.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
surtout, peut-être Yoro, c'est le poids du Rwanda, le Rwanda qui a reçu récemment le congrès de la FIFA.
Mais déjà, ils avaient un stade qui n'était pas homologué. Il faut déjà revenir sur ça. Après, le stade a été homologué. Bon, ils ont une dérogation pour jouer dans leur pays. C'est une dérogation. parce qu'il y a un président omniscient, omnipotent, qui a pu acheter des passes droits dans des clubs et même mettre beaucoup de buts pour vendre la destination Rwanda. Et
visite Rwanda, oui. Bah, oui, sur des grands clubs.
Sur des grands clubs. Et tout ça fait que ce pays est devenu quelque chose, je ne sais
de
pas...
De puissant, un peu comme puissant. Le Maroc. Hein.
Exactement.
Rémi, vous parleriez d'amateurisme de la part de la CAF ?
Je crois que...
Non, mais sur cette affaire-là...
J'ai actuellement passé le temps à parler de l'amateurisme et surtout de l'obscurantisme qui est même cette CAF qui va à reculons, parce qu'on a cru à une certaine période qu'avec le multimilliardaire qui venait là, qu'il allait voir beaucoup de choses un peu plus claires, mais on se rend compte que lui-même n'est presque jamais là, et ça fait que...
Oui, l'administration...
Nous sommes en pilotage automatique, et lorsqu'on est en pilotage automatique, c'est ce qui doit se passer, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça fait que, lorsque vous regardez comment est-ce que la CAF fonctionne, vous vous demandez, est-ce la locomotive... Où est-ce les wagons qui conduisent ? Donc, aujourd'hui, quand vous regardez toutes les décisions de la FIFA, c'est des reports sur reports. On vous dit, par exemple, que
là, c'est pas la CAF... Là, c'est la CAF, parce que c'est les éditeurs.
La CAF, vous voulez dire...
dans les journaux, FIFA.
Quand vous regardez même, c'est-à-dire que on nous avait même dit... concernant l'organisation peut-être de la CAN. On dit, bon, ça va se prendre en Algérie. Après, on dit, non, on laisse l'autre, quand ça va se... au Maroc. Maintenant, on dit que non, on va choisir maintenant un cabinet pour essayer de voir ceci. Donc, tellement... Ils sont inconsistants.
On gère au quotidien. Et
voilà, c'est comme ça.
Yoro, en tout cas, du coup, il y a des questions qui se posent au sujet de Rwanda-Sénégal, parce qu'ils sont dans le même groupe, hein, ces équipes. Elles sont dans le même groupe, mais c'est surtout que
le match aller. Vais expliquer aux auditeurs, parce que le match aller devait se tenir au Rwanda. Comme leur stade n'était pas homologué, ils étaient obligés de venir jouer à Dakar au stade du président Abdoulaye Wade. Maintenant, ils ont réussi à avoir quelques arrangements avec la Confédération africaine de football pour que leur stade soit homologué, entre guillemets. Et donc, ils veulent, parce que le match aller s'est joué au Sénégal, que le match retour se joue chez eux. Mais comment est-ce possible? Nous, on n'a jamais demandé à ce pays de venir jouer chez nous. Mais le match retour doit se jouer au Sénégal et point barre.
Bon, on suivra ce dossier ici à Radio Foot International.
C'est sûr que la Fédération sénégale ne va pas accepter quand même. Bon, enfin,
mais sauf s'ils veulent que le Rwanda se qualifie.
Mais c'est des bras de fer, non, chez Comar.
Oui, mais le problème. On prend cash, hein, parce qu'en fait, c'est pas de notre faute.
C'est pas de la faute du Bénin, vraisemblablement.
La CAF a pu avoir un président sans élection et le président de la Confédération africaine, le président de la Fédération sénégalaise de football avait accepté en son temps de laisser Motsepe diriger la CAF et lui d'être vice-président. Donc si on lui demande aujourd'hui de jouer le match retour au Rwanda, il se pourrait. Je dis il se pourrait, je ne dis pas il va, il se pourrait qu'il accepte.
Je ne pense pas. En tout cas, pour défendre nos intérêts aussi, parce que bon, c'est vrai qu'il y a le président au plan stratégique, mais aussi sur le plan opérationnel, il y aura débat. Hein. Certainement.
On continue dans Radio Foot. Allez, on va parler des Bleus, Marc, n'est-ce pas ? Hein ? Ça vous dit ?
On va essayer.
Rabiot.
Allez,
ça s'est récupéré.
Et la frappe de Benjamin Pavard ! Benjamin Pavard ! Qui vient fracasser la transversale et ouvrir le score pour l'équipe de France ! Dès la 50e minute, dès les premières secondes de cette seconde période. Les Bleus mènent 1-0. Benjamin Pavard !
Une frappe de bâtard rime toujours avec Pavard, mais l'équipe parle aussi aujourd'hui d'une frappe de revanchard sur sa une. Benjamin Pavard a refait hier soir un geste de champion du monde en inscrivant un très beau but. Et le seul but du match, celui de la victoire de l'équipe de France à Dublin. De quoi mériter aujourd'hui un énorme cadeau d'anniversaire puisqu'il souffle ses 27 bougies aujourd'hui. Et il avait surtout fêté hier ainsi sa 48e sélection. En tout cas, il est bien content, Benjamin Pavard, de son nouveau pétard, on peut dire.
sens plutôt bien, bien le coup, j'intercepte et après je me pose pas de questions, elle part bien. Tant mieux pour moi et pour l'équipe parce que ça a permis de gagner le match. J'attendais depuis un certain temps, beaucoup de bonheur. C'est vrai que j'ai connu des moments pas très faciles, mais moi, je me suis réfugié dans le travail. Et voilà, ce but, je dédicace à toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ces moments-là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le futur.
Eh ben, on dirait qu'il l'avait soutenu aussi, le sélectionneur Didier Deschamps, et il était très heureux pour son latéral droit.
Je suis très content pour lui, c'est ce que je lui dis. Il a eu des périodes difficiles, mais malgré sa déception personnelle, il a toujours gardé le bon état d'esprit vis-à-vis du groupe. Et c'est très bien aujourd'hui, même si je ne l'ai pas fait jouer pour qu'il marque ce but-là, mais à travers l'interception qu'il fait et sa frappe, qui est d'excellente qualité, tant mieux pour lui.
Tant mieux pour lui, peut-être tant mieux pour les Bleus aussi, Marc Libra. Bah
non, mais ça fait du bien du moment où nos attaquants, nos milieux de terrain ne font pas la différence. Ça s'appelle une équipe, Pava récupère, frappe avec la chance qu'il a, il frappe bien et puis ça va se loger sous la barre. Après, se poser la question, il a perdu son poste en équipe de France depuis la Coupe du Monde.
Durant la Coupe du Monde.
Durant la Coupe du Monde. Là, on nous explique que voilà, c'est bien pour lui, mais aujourd'hui, il faut qu'il retrouve son niveau. Son niveau Bayern, il l'a. Le problème, c'est qu'en équipe de France, il ne l'a plus. Et on a toujours un problème avec nos latéraux français, que ce soit Théo, Hernandez ou lui, ou Koundé, on est encore en train. Parce que si Koundé avait fait l'affaire face aux Pays-Bas, je pense que Koundé démarrait quand même. Il restait sur son côté. Pavard, il a toujours dit, moi j'aime bien jouer dans l'axe comme au Bayern.
Non, mais il ne le dit plus là.
Eh bien, ça y a coûté cher de l'avoir dit à une époque, vous vous rappelez? Donc maintenant, il se remet sur le côté, il fait avec les moyens du bord. Est-ce qu'il a fait un très bon match? Il marque un but. Après, sur le contenu, ça a été un petit peu difficile, mais à l'arrivée, l'équipe de France, elle gagne. On peut dire que c'est l'animal de compagnie, Didier Deschamps, qui est de retour. Parce que c'est vrai que, alors il y a Maignan, il y a des choses qui se sont passées, mais à l'arrivée, ils ont su faire la différence. Mais j'attends de voir autre chose de cette équipe de France qui a quand même fait un bon match, mais elle s'est heurtée à un football très rugueux qui était prévu, parce que je pense que Deschamps les avait prévenus et ils ne s'attendaient peut-être pas à se faire rentrer dedans comme ça.
Ouais. On va y venir sur le bilan du match, mais Rémi, est-ce qu'on va le revoir finalement? Il l'avait rappelé hein, dans le groupe, on s'était posé la question dans Radio Foot International parce qu'il marquait avec le Bayern Munich et il a sa place, ou il avait sa place dans l'équipe de Nagelsmann.
Quand il n'est pas blessé, il joue tout le temps.
Au Bayern, exactement. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il a gagné des points et qu'il reviendrait dans le 11 de Didier Deschamps?
Je ne peux pas dire qu'il reviendra dans le 11 de Didier Deschamps dans la mesure où Didier Deschamps jusqu'à présent a des problèmes de latéraux. Ça. Parce qu'aujourd'hui, il a réussi à marquer ce but. S'il ne l'aurait pas marqué, je dis bien, les deux latéraux français plus Rabiot auraient été les joueurs les plus nuls. Mais il était arrivé que lui marque ce but-là. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas, parce qu'il n'a pas apporté ce qu'il apporte souvent, généralement. Je n'ai pas vu grand-chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Didier Deschamps a commencé à réfléchir sur certains latéraux-là, jusqu'à nous proposer même les Camavinga, qui, faut-il le dire, heureusement, a été pour moi le meilleur joueur. Contrairement à ce qu'on peut dire, les deux arrêts de Maignan ont été fantastiques. Mais quand vous regardez, l'homme du match, l'homme qui régule tout et qui ratisse que ce soit au niveau de la défense et qui essaie de nourrir l'attaque, c'est bel et bien Camavinga avec ses 104 ballons, sans pour autant oublier 3 interceptions, 2 tacles réussis, 2 duels aériens gagnés et surtout au sol, 5 duels sur 6 remportés et il venait couvrir plutôt le côté des latéraux. Et c'est pour ça que je dis qu'il a facilité le travail des latéraux et c'est pour ça que moi je trouve qu'on n'a pas beaucoup suffisamment parlé de lui, mais j'ai trouvé que par rapport à sa technique, à ses passes en profondeur, il était le meilleur.
Il joue où déjà, Camavinga?
Maison Blanche.
Ah oui, je me disais, quel plaidoyer pour un joueur. Ah oui, c'est vrai qu'il est de l'effectif du Real Madrid. Le défenseur qui marque et puis un gardien qui garde sa cage inviolée en 180 minutes.
Dernière minute, temps réglementaire. Cette fois-ci, il a bien frappé. Regardez, messieurs, dames!
Ah, c'est sublime, sublime, sublime! Le coup de tête est énorme, il y a une puissance de Collins là incroyable et l'arrêt est sublime.
Oh là 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 là!
He has been double marked at the moment. It's coming!
Oh! What a save!
Save late on the game. That is a world class save from the goalkeeper. It's superb!
They call him Magic Mike.
Marc, c'est vrai que cette envolée de Mike Maignan, même le joueur irlandais a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Hein, on l'a vu à la fin, il se disait mais comment j'ai pu ne pas marquer de but. Et on pourrait presque l'appeler l'araignée noire. Hein, on se souvient des envolées à l'époque sur les images d'archives de Lev Yashin, le seul ballon d'or de l'histoire du ballon d'or France Football.
Araignée noire, c'est Thomas Scholl.
En 1963. Il y en a eu d'autres depuis, je suis d'accord avec vous. Mike Maignan, Marc, on savait, on sait à Lille, on savait à Milan, hein, Marc, Matteo Cioffi nous en parle régulièrement. Comment vous l'avez trouvé hier? Vous n'avez pas été surpris que finalement, en 180 minutes, il garde sa cage inviolée?
Mais, moi, je ne suis pas forcément surpris. C'est les gens qui ne connaissent pas, qui, à l'époque de Lille, où Lille va être champion, Mike Maignan avait rapporté plus de 10 points. Il avait fait la différence plusieurs fois. L'AC Milan est champion grâce à Mike Maignan qui a gardé sa cage inviolée, je crois, 19 ou 20 matchs, c'est-à-dire des clean sheets énormissimes. Après, il y a des images dans la vie et des photos. Cette photo, c'est pour l'histoire. Qu'on le veuille ou non, cette photo de Mike Maignan, dans 20-30 ans...
Qui s'envole comme ça.
Il s'envole, on aura cette photo. Il faut bien que les gens se rendent compte que ce qu'il a fait est exceptionnel. Il y en a très peu qui sont capables de faire ça. Parce que quand on le voit, c'est facile, En fait, il a poussé tellement, c'est un vrai coup de tête de Colin, c'est-à-dire qu'il lui met un vrai coup de tête, il va la chercher. Mais vous vous rendez compte que pour l'histoire, peut-être qu'on n'aurait jamais pu assister, puisque juste avant, il y a une erreur, c'est il peut prendre un but contre son camp et il va la claquer. C'est-à-dire que pour moi, celle-là est beaucoup plus importante. On a l'image à vie, mais il faudra toujours se rappeler qu'avant ça, s'il y a ce but contre son camp, s'il fait ça, ça passe à travers, il y a un partout et l'arrêt n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il va faire deux arrêts et dernière chose... J'ai été joueur de foot professionnel. Il vous fait deux arrêts à la 90e. Il vous arrête le pénalty l'autre jour à la 94e. Là, il vous fait 96. C'est-à-dire que un mec vous arrête à la 12e, à la 18e, à la 45e, 60e. Là, lui, il vous fait du bien parce qu'il te dit « Ah ouais, le match était fini, tu sais que... » Donc, c'est encore plus important parce qu'il a, on est d'accord, il a eu quoi? Deux, trois trucs à faire importants. Oui. Et les seuls arrêts importants, il les a fait à la 90e. C'est-à-dire que mentalement, dans la tête, ce garçon-là, il se prépare, il est connecté du début jusqu'à la fin. Vous pouvez sortir du match. Lui, sur les deux matchs, sur le pénalty du premier match face aux Pays-Bas, et là, il est. Et bravo à lui parce que, après, il ne faut pas être surpris. Il a connu, on a connu 15 ans de Hugo Lloris et lui. Il prend la relève. Si son corps lui permet de continuer comme ça, on va se régaler. Vraiment, on va se régaler. Et c'est bien parce qu'on s'est posé la question. Brice Samba qui est très fort. Areola, Lafont. Bon, là, il n'y a plus de game. Il a tué tout le monde. Non, mais là c'est, ne cherchez plus.
Il a gagné son poste.
Non, mais c'est fini. Là, il ne faut pas réfléchir.
Il a raison. Je pense qu'il a relégué tout le monde au second plan. Parce qu'en fait, Mike, je pense qu'il joue aussi avec le pied. C'est là où il est intéressant encore. Parce qu'en fait, au-delà même des parades qu'il effectue, c'est un gardien de but qui peut aider sa défense. Dans les sorties de ballon, on le voit souvent prendre l'initiative du jeu. Contrairement à Yuris qui ne le faisait pas tout le temps. Donc, je pense que c'est une valeur ajoutée à cette équipe. Et la part, on l'a vu, hein, très intelligent, avec quand même une très bonne lecture du jeu, parce qu'il a reculé d'un cran pour pouvoir donc, mettre la main droite afin de sortir de la balle. Donc, ça n'arrive pas tout le temps. Comme quoi, c'est un bon gardien de but qui est là aussi pour se faire valoir une place de titulaire. Donc, en tout cas, pour ces deux matchs-là, quand même, il est parti pour véritablement être un bon remplaçant de Lloris.
Ça veut dire qu'on a un bon successeur de Lloris.
Moi, je l'ai connu très jeune. Je le voyais jouer en U16, U17, U18 avec le Paris Saint-Germain. Il était déjà énorme. Une fois, j'étais avec Bernard Lama qui me dit « Celui-là, c'est mon successeur ». Et quand Bernard Lama le dit, croyez-moi, c'est vrai, ils ont déjà la même agilité et la même technique. Un gardien de but aussi, c'est la technicité. Lui, il est très technique. Après, il joue des deux pieds. Il peut être numéro 6, premier relanceur. Et autre chose qu'il a que les autres n'ont pas forcément, c'est cette lecture de jeu. Il est très intelligent. Donc, du coup, il sait anticiper. Il sait mettre sa défense haute pour ne pas être pris. Franchement, c'est un gardien extraordinaire. Et cette parade d'hier, les gens oublient qu'il y a deux semaines, c'est lui qui sauve son équipe face à Tottenham à la 90e minute
sur une tête sur la ligne.
Exactement.
Ouais. Exceptionnel.
Mm-hmm. Oui. Marc, on a donc eu deux matchs des Bleus, deux victoires, 6 points. Première place du groupe de qualification, donc c'est ce qu'on attendait des Bleus vice-champions du monde. Mais c'est sûr que les deux matchs n'ont pas été vraiment comparables. Hein. On a eu une démonstration face aux Pays-Bas, on a eu un match plus compliqué face à l'Irlande. Quel bilan vous tirez de cette nouvelle nouvelle aventure, on dira, avec Didier Deschamps, parce que c'est une équipe remaniée, c'est une équipe nouvelle. On a tourné la page depuis le mois de décembre.
Mais moi, je signe, c'est formidable. Il a perdu des Lloris, des Varane, du Benzema, des joueurs très importants de sa colonne vertébrale qui ne sont plus là. On est au tournant d'une nouvelle génération qui arrive. Ces joueurs-là, on a parlé, Kamavinga qui a été énormissime, qui risque de faire du mal à son ami Tchouaméni, qui est aussi très bonne équipe de France. Donc il va falloir faire un choix. Qu'est-ce que je fais quand même? Je le remets à gauche, à droite. On a des problèmes de latéraux. Après, devant, on a des problèmes de riches. Colomoigny est exceptionnel et très bon. Giroud, il aura son rôle à jouer. Il est important. C'est le grand-papa qui peut aider tout le monde. Mbappé, il fait ce qu'il veut. Il est capable de marquer à tout moment quand on lui laisse un peu de liberté. Au milieu de terrain, Griezmann a retrouvé son rôle. Donc aujourd'hui, le bilan, il est très positif. On a vu qu'hier soir, cette génération, elle est un petit peu jeune parce qu'elle s'est fait bouger par des vieux roublards qui jouent en première chip, qui jouent. Mais ils ont fait la différence. Et quand vous êtes dans le dur, vous avez un gardien de but, ça s'appelle une équipe, qui va vous sortir le 1. Vous avez vos avants qui sont sûrement les meilleurs joueurs avec Mbappé du monde. Vous ne marquez pas, mais vous n'allez pas voir qui sort de sa boîte, qui n'est plus marqué depuis 2018, et qui frappe, et qui vous fait la différence. Ça s'appelle une équipe. C'est l'équipe à Deschamps. Et comme je vous dis, Mike Maignan a plié le game, mais Deschamps, il a plié le game. Il faut qu'on arrête de l'emmerder, parce que la plupart du temps, j'entends, ouais, mais Deschamps, c'est parce qu'il a de la chance. À un moment donné, il faut arrêter. Deschamps a recréé une équipe, il a remis une équipe en place. Eh bien, il faut le laisser travailler. Parce que face aux Pays-Bas, on joue une mi-temps. Enfin, on joue 21 minutes, on met 3-0. On a une équipe en face qui est en pleine reconstruction, où ils jouaient à 3 pendant de nombreuses années, d'un coup, ils jouent à 4. Donc, mais les Français, ils ont su faire. Après, ce qu'on peut reprocher, c'est que sur la seconde période des Pays-Bas, on doit faire la différence, marquer 3, 4 buts, 5 buts de plus. Ils n'y arrivent pas. Et là, on s'est heurté à une vraie équipe qui vous met en danger. Et comme ils sont encore en formation pour la plupart, parce que Colomoigny, il est très bon. Mais sur les deux derniers matchs qu'il fait, il a deux occasions. Face aux Pays-Bas, il doit marquer. Et là, il doit marquer hier.
Ça nous rappelle quelque chose. Hein.
Non, mais c'est pas grave. Il marque pas. Donc, si vous voulez, tout ça, il va apprendre. Bien sûr. Ça fait 6 points. Donc, bravo à cette équipe de France et que ça continue.
Rémi, vous aussi, vous avez un regard, comme Marc, assez positif sur le nouveau groupe de Didier Deschamps ?
Oui, parce qu'il faut se dire que lorsqu'on perd pas mal d'éléments comme ça, retrouver surtout une charnière qui me paraît imposante. Parce que ce soit Mécano,
encore ou pas Mécano et Konaté,
voilà,
Konaté.
J'ai trouvé quand même cela très très solide. Et puis quand vous avez un bon gardien de but, parce que c'est la colonne, hein, vous vous dites quand même que quel que soit le cas, l'équipe de France, je la trouve beaucoup plus performante que l'équipe qui a joué la finale de la Coupe du Monde.
On se pose tous des questions sur cette équipe.
Franchement, celle qui a joué la finale...
Celle était, qui a fini avait l'air plus
oui,
forte
celle
déjà,
qui a fini était mieux, mais celle qui avait commencé avec Didier Deschamps, j'ai dit, c'est Didier Deschamps qui est passé complètement à côté de sa finale de la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, je crois quand même que quand on voit ce qui s'est passé, et surtout, lorsqu'ils ont été dans le dur, on a pu constater que la France a été bousculée face à une équipe d'Irlande très accrocheuse et qui, physiquement, avait beaucoup plus d'énergie que les joueurs de l'équipe de France. Mais ils ont fait comme une grande équipe, à savoir résister, justement plier, mais rester, bien sûr, comme l'acier.
Yoro, on a l'impression quand même que c'est un des chantiers qu'aura Didier Deschamps, c'est défense regroupée. Et l'équipe a quand même du mal à contourner et a du mal à bouger. Oui, en fait, l'équipe de France, elle s'est retrouvée un petit peu face à ce qui lui pose problème.
S'il y a un bloc bas, il y a Olivier Giroud qui peut débloquer la situation. Sauf que hier, il s'est, je crois, trompé sur le choix des hommes. Il a mis 5 joueurs gauchers. Griezmann, Rabiot, vous mettez Théo Hernandez et il y avait qui d'autre? Rabiot, il y avait Griezmann, Théo Hernandez, il y avait deux autres gauchers. Si je me trompe.
Kamavinga
et un autre. Ça fait 5. Et vous avez Mbappé qui joue à gauche. Ça fait 6 joueurs. Donc le jeu, il était côté gauche. Il penche sur mon côté. Donc il n'y avait rien du côté droit.
Il penche de ce côté-là, le jeu de l'équipe de France. C'est pas de ce match-là.
Et malheureusement, quand c'est comme ça, il faut essayer.
L'adversaire
le sait, mais il faut essayer de jouer sur le déséquilibre. Ils l'ont fait une fois en première mi-temps, ils ont trouvé Colomoigny en profondeur. Je crois qu'il a raté son dernier contrôle. Mais il faudrait qu'il revoie cette animation. Déjà mettre 3 joueurs au milieu, tous des gauchers, Rabiot, Griezmann et Kamavinga, c'est déjà trop.
Mais il faut aussi savoir que quelqu'un qui déstabilise, ça fait 5 joueurs. Comme on n'était pas là, hein. comme elle n'était pas là, parce qu'il déstabilise aussi beaucoup et du coup...
Moi, en tout cas, Deschamps, je fais partie des partisans de Deschamps, dans la mesure où il a su quand même
réussir le football.
Il a su quand même... Il a su réussir quand même une tactique qui me séduit beaucoup, un football vertical où ça part très vite à partir de derrière. Et avec les joueurs qu'il a, je pense que voilà, il tend à rajeunir plus ou moins une équipe de France où mm-hmm. ils ont un grenier aussi de joueurs quand même, un potentiel énorme. Donc je pense qu'il va le faire. Hein, parce qu'en fait, dans toutes les compétitions, Deschamps, il est critiqué au départ. Mais à l'arrivée, il se qualifie, il arrive en finale. Peut-être qu'il a été battu lors de la critiqué. Finale. Mais dans le fond du jeu, moi, je suis vraiment... d'accord avec lui, dans la mesure où maintenant, dans le football moderne, il ne faut pas chercher loin. Hein. Il faut essayer de toucher ton attaquant. Et c'est à lui de conclure les occasions. Tu as Mbappé devant Giroud, donc je pense que le mieux pour lui serait peut-être de jouer dans la transition rapide et de trouver ses attaquants.
Ce qui fait du mal à l'équipe de France et pourquoi il n'y arrive pas, c'est que pour cette équipe de France, il part de très très loin. Et là, vous avez une équipe qui va jouer très très bas. Donc, il ne vous laisse pas 20 ou 30 mètres.
Exactement.
Les Pays-Bas se sont amusés à sortir à 30 mètres. Mais c'est comme si moi, à 50 ans, je joue à 30 mètres de mon but. Mais, mais vous imaginez, ce n'est pas une caravane que j'ai avec ma famille. C'est tout un pays que j'ai derrière. C'est-à-dire que là, le bloc irlandais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué à 15 mètres de son but. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas d'espace.
Et là, c'était compliqué.
Et là, c'est plus compliqué parce que vous avez un gardien qui va sortir et vous avez des blocs qui se mettent à 15-20 mètres. Parce qu'ils savent que s'ils montent, s'ils gagnent 20 ou 30 mètres, Mbappé. Ils vont se tourner. Et là, il y a Mbappé, il y a Colomoigny qui va arriver comme une fusée et ils vont vous faire très très mal. Donc, entre guillemets, le sélectionneur irlandais a trouvé la parade.
Exactement.
On joue en bloc bas. Alors, l'espoir de marquer, il est minime. C'est-à-dire, c'est coup de pied arrêté. Ce que vous avez vu, c'est des longs centres et les mecs, ils mettent le casque et ils envoient. Mais autrement, dans le jeu, ils ne pouvaient pas. Par contre, on a tellement peur qu'ils nous partent dans le dos. Donc, les gars, jouer à 10-15 mètres, c'est-à-dire qu'on va subir. C'est un match que si on marque d'entrée, peut-être qu'il y a 5 ou 6 buts. Mais là, comme on n'arrive pas à marquer, faire la différence parce que le bloc est bas.
Et ça prend du temps.
Et ça prend du temps. À l'arrivée, ils commencent à espérer. Un stade en folie, parce que c'est un stade où les gens adorent le football et le rugby. Donc, c'est, ils étaient présents.
On sentait l'ambiance.
Et c'est ça qui a fait du mal. Donc, si aujourd'hui, on veut faire face à la France, on joue en bloc bas et on essaye de ne pas laisser d'espace dans le dos entre nous et le gardien. Ouais. Mais par contre, c'est un football archaïque.
Pas
qui mais personne ne l'aime. Mais sur la première période, les Français, t'as vu, c'était attaque-défense. Ça fonctionne pas, t'arrives pas à marquer, puis tu doutes, doute.
Exactement.
Et puis après, seconde période, tu n'es pas à l'abri de un coup franc.
En tout cas, il a marqué à la 49e minute et 30 secondes.
Benjamin, je ne vois pas pourquoi ce que vous voulez dire, je ne comprends pas. C'est toi ce jour
un
de
genre
grève.
De 49-3 à la mode, à la mode équipe de France.
on ne voyait pas ça.
Les prochains rendez-vous de Mbappé et de ses camarades, notre capitaine, eh bien, ça sera en septembre. Alors, ça sera à Gibraltar. Et ensuite, l'équipe de France recevra la Grèce. Allez, on continue et on termine. Ils joueront ce soir face à Andorre dans un groupe où figure aussi la Suisse, mais il y a encore Israël contre qui le Kosovo, donc cette équipe, cette sélection nationale, a inscrit son premier point dans la route qui l'amènera peut-être en Allemagne, Allemagne 2024 à l'Euro. Cette jeune nation rêve d'un Euro, rêve d'y participer, elle qui n'est membre de l'UEFA et de la FIFA que depuis 2016. Le sélectionneur, en tout cas, c'est Alain Giresse, le Français. Il a pris les rênes de cette équipe il y a un an. Écoutons-le, Alain Giresse, au micro de Maxime Gibouin.
Dans ce groupe, il y a la Suisse, qui est effectivement l'équipe la plus représentative. Ensuite, eh bien, on peut considérer qu'on aurait pu tomber dans un groupe bien plus difficile avec deux grandes nations. Et là, effectivement, ça aurait été encore un peu plus compliqué. Après, quand on voit les autres équipes, sans faire preuve de suffisance, on peut avoir de l'ambition. Il y a peut-être une possibilité. Derrière, il y a évidemment toute la construction de cette équipe à travers un pays qui est affilié à la FIFA depuis 2016. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on aura une équipe qui pourra avoir une dimension, un standing et qui lui donne des possibilités sur les grandes compétitions. Ça fait un an moi, que je suis là, on a avancé à travers la Ligue des Nations notamment. Et maintenant, il faut continuer à affirmer cela et aussi avoir la capacité, nous, de pouvoir affirmer ce que nous sommes capables de faire.
Marc, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour les petites sélections? On a l'impression que oui, parce que finalement, en augmentant le nombre de participants, il y a, on va dire, les grandes écuries, et puis après, il y a des petites nations. Et surtout, le Kosovo est quand même fait partie de l'ancienne Yougoslavie, et donc il y a cette culture foot dans ce pays.
Non, mais il y a de la place
pour tout le monde. Il y a du talent.
Non, mais il y a de la place pour tout le monde. On a vu une surprise aujourd'hui avec le Cameroun, peut-être que le Cameroun aussi se dit, oh, ben, on va rencontrer cette équipe-là, on se le prend tranquille à la légère. Le Kosovo, c'est une équipe qui peut prendre le sérieux, avec un entraîneur qui est passé par l'Afrique, qui connaît très bien l'Afrique, qui connaît, nous on l'a, il est consultant sur Europe 1, il nous explique, ben c'est très compliqué pour rentraîner là-bas, pour réunir les joueurs, c'est très compliqué. Donc de ce fait-là, les joueurs s'arrachent, essayent de faire la différence, et s'ils peuvent créer la surprise, c'est pas comme la France où presque à chaque fois, vous êtes, je vais pas dire l'Italie, parce que c'est plus compliqué pour eux, mais c'est pas les grands pays européens qui sont toujours qualifiés. Eux, ils disent, on peut peut-être créer l'histoire et créer quelque chose qui n'a jamais existé pour nous. Donc on se bat pour une cause différente, et ça peut fonctionner. Certes, la Suisse peut-être la meilleure équipe et peut faire la différence, sans doute. Mais après, il faut les jouer. Mm-hmm. Et quand on va les jouer chez eux aussi, c'est jamais évident. Donc je pense qu'Alain Giresse est capable de le faire. Maintenant, après, c'est le terrain qui va parler.
Chacoma mm-hmm.
Tout à fait. En fait, c'est des équipes quand même difficiles à manager dans la mesure où il n'y a pas de palmarès. Souvent, il n'y a pas de joueurs vedettes. Donc vous arrivez...
Non, là, il y a Ramani, je pense que c'est le plus connu, qui joue à Naples. Après, il y en a qui jouent à Majorque, à Lille.
C'est vrai que souvent, c'est la solidarité qui peut les aider. Hein. Donc vous n'avez pas peut-être... Vous avez Alain Giresse qui vient d'arriver, qui est un homme de défi aussi, parce que c'est pas pour rien qu'il est parti là-bas. Donc je pense que dans le football actuellement, il y a toujours des surprises. Donc c'est dans la tête. Il faut avoir du mental et se dire que voilà, c'est possible d'aller chercher quelque chose, ils le feront.
Yoro, on a vu ça de toute façon sur le continent africain aussi, hein, des petites nations, en tout cas celles qu'on n'a pas l'habitude de voir, et puis qui ont leur première canne. On pense au Cap-Vert,
Madagascar, hein, les Comores. Et ils ont la chance de tomber sur quelqu'un qui s'appelle Alain Giresse, qui connaît comment manager ces petits pays. Parce que quand même, aller prendre le Gabon il y a une bonne dizaine d'années et faire ce qu'il a fait là-bas, le Sénégal, on parle beaucoup d'Alou Cissé, mais avant Alou Cissé, au Sénégal, il y avait Alain Giresse. Et donc, du coup...
Et il prétend être un bâtisseur, lui, pas quelqu'un qui laisse des équipes en ruine.
C'est pas quelqu'un qui va venir peut-être te faire gagner la Coupe d'Europe avec cette équipe kosovare, mais il peut quand même construire sur du long terme. Et ça pourra permettre au futur entraîneur de venir construire sur du solide. Parce que lui, même en club, il a toujours été un grand bâtisseur. Et quand on lui a donné la lumière, comme au Paris Saint-Germain, il avait échoué parce que c'est quand même dur d'entraîner des équipes comme ça.
Rémi, d'autant que ce soir, en jouant Andorre, par exemple, là, on a des équipes qui, on peut dire, se neutralisent, c'est-à-dire elles ont à peu près le même niveau et du coup, c'est l'occasion de marquer des points pour les petites équipes. Alors là, c'est le Kosovo, mais ça peut être aussi des équipes sur le continent africain. On pense les petites nations, des fois, entre elles, elles peuvent avoir la chance de marquer des points.
Je vais dire, par rapport à certaines nations africaines, ce n'étaient pas des petites nations. Parce que quand tu vas me parler peut-être du Sénégal, moi j'ai été déçu par Giresse, parce qu'aujourd'hui quand je vois ce que Aliou Cissé est venu faire et on me dit que Giresse est un bâtisseur, oui, bâtisseur dans
il a lancé des Sadio Mané et tout ça.
Il faut nous laisser ça. Il n'a rien fait, le bilan est néant.
Non mais Rémi, on parle du Kosovo.
Le bilan est néant, donc pour... Non, je parle de là pour dire que je n'espère pas qu'il va faire des miracles là-bas, parce que même avec le Gabon, je n'ai pas vu de miracle qu'il a eu à faire. Donc pour moi, aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas le genre d'entraîneur, de sélectionneur comme on a vu peut-être les Claude Leroy. Mais je crois quand même que, parce qu'il a un nom, il a une histoire, il a la possibilité avec le groupe qu'il peut avoir. Parce que le Kosovo, quand même, quand on voit certains joueurs, on se rend compte que maintenant, c'est le nom du pays qui semble petit, mais en réalité, ils ont des joueurs qui jouent dans de bons championnats. Donc, il n'a pas à venir nous dire que, par exemple, contre Andorre, ils ne vont pas battre. Ils doivent battre Andorre correctement. Et ils doivent même espérer, ce n'est pas les îles Féroé. Les îles Féroé peuvent dire encore que nous, on a presque personne, on a beaucoup plus de moutons que de joueurs.
C'est exactement le contraire de ce qui est dit. Voilà. C'est exactement, c'est-à-dire que vu la tradition footballistique qu'a ce pays, il y a des chances.
Il faut tout créer, il n'y a rien, il ne se passe rien, donc il faut tout créer.
Exactement, il y a tout à construire. Ouais. Et on se souvient en plus des tensions quand il y avait certains matchs sur les terrains du Kosovo. Donc bonne chance au Kosovo et à Alain Giresse. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Et à demain. We'll